Bonsoir et bienvenue à tous. Donc nous sommes très heureux d'initier notre cycle de rendez-vous autour des collections en mettant à l'honneur ce soir le rock et la littérature. Et donc pour cette première expérience qu'on espère perpétuer au fil des mois, on a le grand plaisir de recevoir Mischka Assayas. Donc Mischka, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain, auteur de romans et de récits. Votre dernier livre raconte votre expérience d'arpenteur de ce château qui est devenu la France en 2010 après le durcissement des lois sur l'identité nationale. Vous êtes également journaliste. Vous avez travaillé pour Actuel, Rock and Folk ou les Inrecuptibles dans sa première mouture. Et vous animez le dimanche soir sur France Musique. Une émission qui s'appelle Subjective 21, voilà. Autour du rock. Ouais, voilà. Et vous êtes enfin donc le maître d'œuvre de ce livre de chevet qui est pour nous, qui sommes tous des amateurs de rock, Le Dictionnaire du rock, publié chez Lafon en 2000. Alors, en première question, j'aimerais vous demander si on peut finalement considérer que le rock a changé votre vie. Et aussi, sans doute, votre littérature.
Déjà, ma littérature, elle n'existait pas avant, donc ça n'a rien changé. Mais que ça a changé ma vie, oui. En deux mots, pourquoi ? Parce que c'est une formule un peu floue. Il se trouve que dans les années où j'ai fait mes études, il y a un certain temps, je me suis orienté vers la littérature. J'ai fait Cagnes. J'ai passé le concours. Vous savez, il y a deux concours. À l'époque, il y avait garçons et filles séparés. Bon, donc j'ai eu le concours Saint-Cloud. Et je voulais pas enseigner. On était un peu dans les années post-gauchiste, l'idée de rentrer dans l'institution, ça me déplaisait, j'avais besoin de sécurité, et j'ai entendu comme un appel, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir 20 ans, un peu moins même, au moment où a émergé un mouvement qui aujourd'hui est entré dans l'histoire, qui était le punk rock. Donc voilà, j'ai eu cette chance, c'est de tout à coup de sentir que quelque chose de nouveau allait arriver, et qu'il fallait pas que je rate ce coche-là, parce que ça entraînait un changement total de je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme si tout à coup j'étais sorti d'un souterrain et je voyais une lumière blanche un peu aveuglante, et je savais que je devais me diriger par là, parce qu'il y avait quelque chose de tout à fait comme le début d'une nouvelle ère. Et j'ai jamais considéré que je commençais à écrire pour faire du journalisme, et encore moins de la littérature, parce que ça, pour moi, c'était vraiment très haut dans le firmament, et ça me semblait totalement inaccessible, côté étudiant et tout ça. Bon, et en fait j'ai voulu en fait intervenir presque de manière politique, si vous voulez, c'est-à-dire que les textes que j'ai faits dans Rock et Folk et Libération, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Ce qu'on appelle aujourd'hui les médias, avec toute leur organisation, n'existait pas. Ces journaux pouvaient avoir beaucoup de lecteurs, mais ils étaient faits dans des conditions de fanzine. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à Rock et Folk parce que certains groupes dont j'avais acheté les 45 tours et les albums, faut imaginer qu'à l'époque, des groupes aujourd'hui considérés comme classiques, comme Gang of Four, XTC, ou même Joy Division d'ailleurs, enfin qui a été tellement marquant pour moi, n'intéressaient que, 200 personnes à Paris. Et encore, je suis généreux. Donc j'étais effaré que ces groupes qui était changé, en train de changer la face de la musique et sur lesquels il y avait des articles dans la presse à Londres, etc., aux États-Unis, à New York, bon, et qu'il n'y avait pas d'écho en France. Donc je lui dis, il faut que j'intervienne, il faut que je témoigne de ce que cette musique m'apporte, de ce qu'elle me révèle, et personne ne le fait. Donc il y avait une espèce de mission, si vous voulez, je me dis, il faut que je m'y mette. Et j'avais une inconscience totale, c'est-à-dire à la fois j'étais extrêmement timide et en même temps très arrogant, c'est-à-dire que je pensais que j'étais une sorte d'élu, que j'étais le seul à pouvoir parler de ça. Bon, voilà à peu près comment les choses se sont amorcées. Mais en tout cas, le mot de littérature me gêne parce que j'étais très loin d'imaginer que c'était de la littérature et j'étais très loin d'imaginer que cette façon d'écrire me mènerait à faire des livres personnels. Comme de toute façon, ce que j'ai écrit est très lié à ce que j'ai expérimenté. Au fond, les choses sont arrivées par hasard, je dirais. J'avais une ambition, mais je ne savais pas trop comment la canaliser. Voilà. Je vais m'arrêter parce qu'il vaut mieux qu'il y ait des interruptions.
Oui, du coup, le rock a changé votre vie et d'une certaine manière, il a changé une partie de la littérature. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il ne vous semble pas incongru de rapprocher, comme on le fait là sur nos tables, 40 ou 50 ans de musique avec une discipline artistique qui a des centaines, voire des milliers de...
C'est-à-dire, il y a une chose qui est très difficile à imaginer aujourd'hui, c'est que moi, au fond, j'avais presque honte de ce que j'écoutais. Faut quand même se rappeler que le rock, ce rock-là, à cette époque-là, n'était pas culturel. C'était vraiment quelque chose qui était soit sulfureux, vu que c'était comme vulgaire, dans beaucoup de cas, indigne de la haute culture. Et quand vous parliez avec même des gens de mon âge qui préparaient des diplômes, philo, histoire, etc., bon, ça leur paraissait souvent assez risible. Vraiment, imaginez que 30 ans plus tard, je me retrouve ici à pontifier, j'espère que non, mais enfin, du moins à en parler sérieusement, c'est quelque chose que jamais, jamais, jamais j'aurais imaginé. Vraiment jamais. En plus, les textes que j'ai faits à ce moment-là, j'avais l'impression qu'on me les laissait, les faire et qu'on allait me couper le courant, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'on allait me débrancher. C'est un peu d'ailleurs l'expérience que les groupes punk ont eue. Vous savez, on avait cette impression que les choses, même rock et folk, même les journaux de la contestataire, de la contre-culture, les journaux qui étaient censés justement relayer tout un nouveau monde, que ces journaux étaient quand même tenus par nos aînés. Et le punk et la musique dans son sillage souvent dirigés contre ces gens-là. Et ils nous ont bloqué les portes. Donc, on était des terroristes à notre façon. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Moi, j'écris des articles très violents, très moqueurs, très très cruels, parfois vis-à-vis de certains musiciens, tout simplement parce qu'ils avaient 30 ans et que moi, j'en avais 20. Donc, enfin, il y avait un côté... vous savez, c'était l'époque où celui qui était le plus jeune était celui qui avait raison. Et parce qu'il sentait des trucs que les autres ne voyaient pas, ne sentaient pas. Donc on était un peu ceux qui avaient vu le feu et qui prenaient le feu et qui le transmettaient. C'était pas du tout institutionnel. Comment ça aurait pu l'être ? Les concerts, de toute façon, étaient... si on met à part, les Genesis, les Pink Floyd, les Who, les Stones, etc. Bon, il y avait ce côté un peu officiel, entre guillemets, de la culture pop, comme on disait, les concerts pop. Moi, la musique qui m'a poussé à réagir et à écrire était ultra minoritaire et ultra marginale. Voilà. Voilà. Alors après, juste pour ouvrir un peu, l'idée que le rock irrigue la littérature, je dirais dans mon cas, c'est pas flagrant. Pourquoi ? Parce que c'est certain que c'est le rock qui m'a donné une légitimité, c'est-à-dire qui m'a donné une autorisation à écrire sans laquelle je n'aurais pas eu cette audace. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse dans le rock ? C'est la fulgurance, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un, et ça c'était le cas du punk, qui sait pas forcément bien jouer, qui sait pas forcément bien chanter, qui a pas la moindre idée de comment composer une chanson, encore moins de composer un album, et qui se dit, j'ai quelque chose à dire, je le dis avec ma maladresse, avec ma façon, et puis ceux qui ne m'écoutent pas ont tort. Bon, et j'ai raison. Ce qui était au fond l'attitude des avant-gardes. Vous savez, le surréalisme, au situationnisme, en passant par le lettrisme, c'est toujours une bande de 20 copains qui ont décidé que c'était eux qui avaient raison, que tout le monde avait tort. Bon, et au fond, le punk et tout ce que j'ai accompagné à ce moment-là, c'était une des dernières avant-gardes au sens traditionnel qu'on ait connu. Bon, et ça, c'est une légitimation peut-être aujourd'hui difficile à imaginer dans un monde où finalement, même ce qui est minoritaire se diffuse simultanément très vite avec les relais Internet, etc. MySpace, donc voilà. Tout ça pour dire que pour moi, le rock, c'est proche de la poésie. C'est-à-dire que c'est tout à coup quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous traverse. Vous faites une chanson de 3 minutes, vous en faites éventuellement une autre, peut-être un album, et puis, d'une façon, je dirais pas que ça s'arrête, mais souvent c'est difficile de retrouver ça. Et ça, c'est le propre de la poésie. C'est-à-dire que ça vous tombe dessus quand vous avez 20 ans, 21 ans, vous écrivez des textes un peu presque en écriture automatique, et vous êtes absolument pas capable de commencer ça consciemment. Et moi, il m'est arrivé, pas par narcissisme, enfin bon, parce que parfois on se retourne, de relire des textes que j'avais écrits, et je lis des trucs, je dis bon, ça c'est nul, c'est chier, ouais. Et tel truc, je dis mais c'est moi qui ai écrit ça, c'est incroyable, j'ai l'impression que c'est, en fait, c'était pas moi, qu'il y a quelque chose qui m'a traversé. C'est comme quand on écoute un morceau de cette époque-là, quelque chose s'est passé. Je saurais pas vous définir ce que c'est, mais quelque chose s'est passé. Et voilà. Et la littérature, c'est quand même très différent, parce que ça suppose beaucoup de réflexion, beaucoup de patience, beaucoup de temps. C'est-à-dire que vous vous y mettez tous les jours. Pour composer un roman, c'est compliqué, vous vous trompez, vous pédalez dans la semoule, etc. Pour moi, c'est complètement différent. Alors, pourquoi ça m'excite de réunir les deux ? Parce que c'est difficile et que c'est presque impossible. Je sais pas franchement qui pourrait dire je suis un écrivain rock en étant tout à fait sûr de lui. Alors vous avez je sais pas des gens comme Patrick Lynn qui sont très bons auteurs, mais lui c'est plutôt tout un décor, hein, c'est-à-dire qu'il se met à raconter des histoires en effet de gens qui sont des musiciens de rock, des groupies, des histoires sordides, etc. Bon, mais moi ça a jamais été mon but. Moi j'ai toujours souhaité parler de ce que je connaissais, de ce que j'imaginais. Qui est pas forcément lié à la musique, même enfin incidemment oui, mais pas délibérément, voilà.
Par rapport à ce qui rapproche donc justement cette espèce d'innocence cannibale qu'il y a dans le rock et les fulgurances de la poésie, il y a aussi un autre aspect des choses qui une certaine prétention littéraire d'un certain rock. Je pense notamment à certaines déclarations de Lou Reed qui dès 67 prétend faire un art adulte par rapport à l'art des teenagers. Alors je sais pas ce que ça vous inspire.
Ce qui est vrai, c'est que dans le rock, enfin moi c'est ce que j'ai perçu parce que j'ai été contemporain de ça, même si j'étais enfant, c'est qu'il y a eu quand même, on dit par facilité Woodstock, si vous voulez, bon voilà. C'est pas que avant tout était complètement différent, mais quand même, si vous voulez, même les Stones. Les Beatles, les Who, tout ça, c'était des 45 tours, c'était des chansons, c'était parfois des tubes, et c'était pas pris très au sérieux. Et puis, il y a eu aux États-Unis un journal qui s'appelait Rolling Stone, qui a permis à des gens très jeunes d'interviewer très longuement les musiciens qu'ils admiraient. Jim Morrison, Jimi Hendrix, John Lennon, etc. C'était des interviews, c'est un peu le modèle d'ailleurs de ce qu'ont été les Inrecuptibles à la grande époque, hein, à la fin des années 80. C'était des interviews au long cours où les gens racontaient à la fois leur parcours, mais aussi leurs grandes idées, ce qu'ils voulaient faire pour changer les choses, etc. Donc il y avait ces longues interviews qui étaient vraiment un des actes fondateurs enfin du rock pris au sérieux. Bon, pareillement, de longues chroniques de disques. Ça, c'était aussi le modèle de rock et folk, des analyses, c'est-à-dire que finalement, on a appliqué au rock ce qu'on a appliqué au jazz, peut-être à la littérature, ça, je ne me rends pas compte. Mais enfin, si vous voulez, il est certain qu'à partir d'un certain moment, on a pris ça très au sérieux. C'était le mouvement de la jeunesse, une jeunesse révolutionnaire, conquérante, qui allait renverser l'ancien état des choses et qui allait imposer ses propres valeurs. Bon, et ça, ça supposait donc la possibilité d'écrire. Alors, ce qu'a dit Lou Reed, il n'est pas le seul. Bob Dylan, tous les auteurs, qui avaient des prétentions poétiques dans le rock, que ce soit une poésie réaliste comme celle de Lou Reed, une poésie parfois surréaliste comme celle de Dylan, ou une poésie, je dirais peut-être plus naïve et plus enfantine comme celle des comptines de Phil Spector, etc., qui étaient toutes bêtes. Au fond, je pense que ces gens étaient pas inconscients de ce qu'ils faisaient. Ils savaient parfaitement que ce qu'ils faisaient avait une valeur quasi. En fait, c'est de la magie. C'était magique. Ces gens savaient qu'ils étaient en contact avec des forces que les autres ne captaient pas et qu'ils étaient les seuls à capter. Quand Pete Townsend a écrit Tommy, franchement, une minorité de gens qui n'y comprenaient rien ou qui s'en fichaient disaient c'est vraiment éphémère. On n'en parlera plus dans 2 ans, etc. Mais d'autres savaient que c'était quelque chose qui allait rester dans l'histoire et qui serait éternellement vivant, comme Bach, Mozart, Beethoven, enfin, ou je sais pas, Thelonious Monk, Miles Davis, enfin, et ça, c'était pas évident à imposer, si vous voulez, à l'époque. Donc moi, je ricane pas face à déclarations comme celle de Lou Reed, parce que il avait conscience, quand même, de son importance historique, il avait pas tort. C'est vrai qu'il faut de l'arrogance pour dire des trucs comme ça.
Je dirais peut-être pas la même chose en face de Lou Reed.
Oui, non, c'est pas très
agréable. Il est pas commode, ouais.
Parler un peu, si vous en êtes d'accord, de votre aventure du dictionnaire du rock. Alors, comment vous êtes passé, en fait, de votre expérience personnelle de romancier, de journaliste, à une entreprise plus collective, à vocation un peu universalisante ?
Bon, je vais faire une réponse très ras des pâquerettes. Expérience de romancier, pas vraiment. Enfin, je veux dire, bon, j'ai publié deux petits récits. Bon, non, c'est une commande à l'origine. C'est tout simplement un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Guy Scheller, qui était le directeur de la collection Bouquin. Il est mort aujourd'hui. Et c'était un vieux monsieur. C'était le premier mari de Françoise Sagan. Il était de 25 à 30 ans, son aîné. C'était alors là, lui, c'était old school. C'était dit vraiment, lui, enfin, il venait vraiment, c'était le monde de Gaston Gallimard, si vous voulez. C'était un homme qui traitait, si vous voulez, les auteurs un peu comme des valets ou des palefreniers. C'est-à-dire qu'au fond, il m'a fait signer un contrat, comme on dit, léonin, c'est-à-dire que vraiment la part de l'auteur était misérable. Et pour me consoler, il m'invitait à déjeuner dans des grands restaurants. c'était vraiment une autre époque. Bon. Mais enfin, il avait cette intuition qui le poussait à pressentir que le rock allait prendre une part absolument immense dans la société. Et la collection Bouquin, elle avait déjà publié des dictionnaires des symboles, dictionnaires du jazz évidemment, mais beaucoup d'encyclopédies. Et il se disait qu'il y avait quelque chose à faire dans ce domaine-là. Alors, l'idée initiale de la collection était de faire un dictionnaire, je dirais, plus technique et plus simple, c'est-à-dire plutôt une collection de fiches pour que, vous savez, Internet n'existait pas, ou c'est commencé à se développer en 98-99. Hein, vous vous souvenez, il fallait 20 minutes pour imprimer une page. Bon, c'est comme si ça n'existait pas. Et donc, il fallait donner cette espèce de banque de données, quoi, au public. Là, c'est là que quelque chose d'inattendu est intervenu. C'est que, en fait, j'avais quelque chose comme 35 ans quand on m'a demandé ça. J'avais écrit dans Rock et Folk, un peu dans les Un Rock, etc. Et vous savez, savez comment on est, les critiques de rock, c'était toujours des avis très tranchés, très péremptoires, ça c'est bien, ça c'est nul. Voilà, on était très, très, justement, un peu genre les enfants de Lou Reed, très arrogants. Et puis, je dirais que ça a été un peu une école d'humilité, parce que je me suis rendu compte en travaillant sur chaque artiste qu'en fait, j'y connaissais rien, quoi. Enfin, je veux dire que bon, bien sûr, j'avais écouté des trucs, mais que je ne savais pas d'où ces musiciens venaient, je ne savais pas ce qui les avait poussés à faire un groupe à telle époque, j'avais pas compris vraiment comment un producteur travaillait, enfin, je sais pas comment vous dire, d'où géographiquement ils venaient, socialement, etc. Et je me suis rendu compte que c'était pas intéressant de faire une espèce de quid ou de banque de données de né telle année il sort un album, telle année il sort machin, remplace truc à la basse, bon, etc. Et que l'intéressant c'était de raconter ça comme presque une saga. Et parce que c'est vraiment des histoires romanesques. Enfin, pour moi, c'est une nuit, ce livre. C'est-à-dire que c'est des histoires vraies, mais il y a beaucoup de fantasmagories. Quand vous racontez l'histoire d'un groupe comme le Grateful Dead, qui a été l'émanation d'un mouvement clairement induit par les drogues psychotropes. Bon, c'est-à-dire que ce groupe n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu une distribution de LSD à des étudiants à Stanford en 1966-67, un programme d'ailleurs qui a été financé, je crois, par l'État américain pour faire prendre des drogues aux gens et étudier leurs réactions. Bon, et du coup, il y a eu cette musique invraisemblable qui est née, cette façon de vivre nomade, etc. Et donc, je me suis rendu compte que c'était absolument captivant et que ces histoires avaient été partiellement racontées dans Rock et Folk, dans Best et dans Libération, etc. Mais qu'il n'y avait aucun livre qui les réunissait et qui les racontait avec un semblant, enfin, une tentative de rigueur, d'exactitude, de vérification des informations, etc. Bon, après, tout ça, pourquoi? Parce que souvent, les gens qui écrivent sur le rock ont une connaissance très approximative de l'anglais. Donc, un peu, si vous voulez, au lieu de vraiment lire et comprendre, ils inventent. Et là, j'ai utilisé un peu ma formation d'étudiant pour mettre ça au service de du travail autour de ce livre. Alors, je n'étais pas le seul. On était une équipe d'une douzaine d'auteurs importants. Et j'ai essayé un peu, si vous voulez, par des discussions avec les uns avec eux de les entraîner vers cette façon de faire. Bon, ça n'a pas été facile. Certains comprenaient pas pourquoi il fallait s'étendre sur certains groupes et pas sur d'autres, etc. Pourquoi il fallait raconter plutôt que faire un truc très sec, style télégraphique. Mais à l'arrivée, ça a donné un livre monstrueux. D'ailleurs, enfin, ils ont poussé des hurlements chez Lafon quand j'ai dit que je voulais faire deux tomes. Au début, ils ont dit non. Et puis moi, j'ai été très très acharné, très obstiné, et je suis arrivé à leur imposer l'idée qu'il fallait faire 2300 pages. Je crois qu'il y a 2300 articles. Et enfin, je pouvais plus m'arrêter. C'était une drogue, ce truc. J'ai arrêté de pratiquement de travailler parallèlement. J'ai gagné très peu d'argent. Enfin, j'ai failli divorcer. Enfin, ça a été bon. Ça a été vraiment un truc terrible. Vous savez, c'est le côté Bernard Palissy là qui faisait brûler ses meubles là pour arriver à faire son je sais pas là, c'est la céramique là. Bon, je sais plus. Porcelaine. Bon, il y avait un côté. Alors là, pour le coup, c'était comme une mission. Il fallait que je termine ce livre. Il fallait que je le fasse, il fallait que je fasse cette encyclopédie et puis bon, l'accueil qu'elle a reçu m'a comment dire récompensé au centuple, vraiment.
Oui, mais alors donc c'est une encyclopédie qui est parue en 2000, oui. Donc qui a été terminée en 2000. Depuis, c'est passé beaucoup de choses. Je suis sûr que d'ailleurs autour de cette table, les personnes qui sont là et qui ont regardé le dictionnaire ont peut-être repéré les manques éventuels. Ou, voilà déjà. Donc peut-être. Déjà, est-ce qu'il y a une nouvelle édition de prévue ?
La réponse est oui. J'y travaille depuis quelques années. Elle est prévue, si tout se passe bien, pour la fin 2012, donc dans un an. Alors, en fait, ça va sans doute s'appeler le nouveau dictionnaire du rock, parce que, en fait, l'arrivée d'Internet a bouleversé la donne. Parce que, si vous voulez, il y a des articles où on est très précis sur une certaine période du groupe, et puis un peu flou et lacunaire sur une autre. Parce que les informations, vous savez, on les a obtenues très empiriquement. Moi, par exemple, j'avais archivé une collection du New Musical Express, qui était vraiment la bible, l'hebdomadaire qui était fait à Londres, dans lequel je puisais toutes mes infos, justement, depuis la fin des années, depuis le milieu des années 70. Et j'ai fait construire un meuble spécial, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais construit une case pour chaque année, et j'avais laissé de l'espace suffisant pour soulever le journal et tirer le truc. Et j'avais passé un mois et demi à tout archiver, c'est-à-dire que j'avais tout pris et j'avais mis, je sais pas, Echo and the Bunny Man, 9 mai 1982, 4 avril 1983. Donc à chaque fois, quand je devais faire l'article, je regardais ma banque de données, je tirais le journal, je mettais sur mes genoux, si vous voulez, trois encyclopédies ouvertes, celle de Rolling Stone, celle du NME, je sais plus une autre. J'ouvrais mes trucs, je regardais comme ça et puis je faisais l'article. Enfin, moi, c'était ma façon de faire. Les autres ont peut-être fait autrement. Hein. Mais moi, à l'arrivée, j'ai fait quelque chose comme 20% du livre. Le reste, je l'ai beaucoup relu, vérifié, dans certains cas en partie réécrit. Mais tout ça pour vous dire qu'on avait des informations qui étaient sujettes à caution, etc. Alors, c'est pas que Internet, loin de là, nous donne des certitudes, mais il y a tellement de sites qui ont été créés par des érudits, des maniaques, des fanatiques, que forcément, vous avez des interviews de 25 pages du guitariste de Moby Grape qui raconte par A plus B tout ce qu'il a fait de telle année à telle année. Alors bon, comme il a pris beaucoup de drogue, parfois sa mémoire est défaillante, raconte n'importe quoi, et puis la version du guitariste n'est pas la même que celle du batteur. Enfin bon, c'est vrai, tout ça. Mais si vous voulez, on est un peu comme des juges d'instruction et on se fait une intime conviction à partir de divers témoignages, et à un moment on se dit bon, au pif, ça doit être ça, mais alors après vous aurez toujours un chieur qui ira vous dire mais c'est pas vrai parce que vous avez pas parlé de tel album, en fait c'est pas machin qui joue dessus, c'est écrit sur la pochette mais en fait c'est truc, enfin bon, voilà, mais ça c'est je dirais c'est à l'infini, et à chaque fois que je fais des trucs, des discussions de ce genre, il y a toujours un qui vient me voir, on me dit pourquoi il y a pas tel groupe, là il y a une erreur, et voilà, bon, donc mais c'est normal, et en même temps c'est plutôt flatteur parce que ça veut dire qu'il attend du livre qu'il soit parfait, bon, ce qui est plutôt un éloge.
On commence.
Ah oui, c'est ça.
Vous avez embauché Michel Houellebecq pour. Oui. Vous pourriez nous en parler?
Ah oui, avec plaisir. Bah, j'étais assez copain avec lui. Moi, je l'ai connu en. 88, même 87, enfin j'ai connu vraiment quand personne le connaissait, parce qu'il y avait eu un poète qui s'appelait Michel Bulteau, qui avait fait un peu de rock et qui s'intéressait beaucoup à la poésie décadentiste, etc. Et Houellebecq avait s'était retrouvé à une réunion chez lui, avec comme ça il y avait d'autres auteurs, il y avait Charles Danzig, il y avait j'ai oublié maintenant qu'il y avait. Bon, enfin bref, il y en avait quelques-uns et on a sympathisé. Et ce type absolument charmant, et on a parlé de Neil Young longuement. Il était là déjà avec son sac en plastique là, et donc on est resté dans le métro pendant une heure. Il m'a parlé de Neil Young et tout, et je me suis dit mais ce mec est génial. Enfin j'ai senti qu'il y avait un truc. Et après il a publié. Qu'est-ce qu'il a publié? C'était un petit poème, un long poème, je sais pas, Resté vivant, qui était très beau. Et puis il a publié Extension du domaine de la lutte au moment où je cherchais des collaborateurs. Et je me suis rappelé, c'est le mec qui m'avait parlé de Neil Young et tout. Il dit, ah, c'est vachement bien son livre. Et donc je l'ai appelé et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais collaborer avec moi et d'autres pour faire l'Océan du rock? À part Neil Young, voilà. Donc c'est tout. Alors donc il a dit, à part Neil Young, il voulait rien faire. Donc je lui ai fait écrire sur Leonard Cohen, un très beau texte. Et je regrette parce que j'ai même demandé à Modiano aussi. Parce que j'avais vu dans une interview qu'il avait cette espèce de côté passionné par les détails, les vieilles coupures de journaux, l'actrice américaine qui le 3 juin 63 fait une photo avec son chien dans le studio de machin et tout. Donc voilà, je me dis ça, il a tout à fait cette forme d'esprit du petit détail vrai. Et je lui ai écrit un mot, il a pas répondu, et puis je l'ai rencontré après et il m'a dit que le Dictionnaire du Rock était un de ses livres préférés, qu'il arrêtait pas de le lire. Et vous savez, le plus grand compliment que j'ai eu, c'est Emmanuel Carrère, qui est un copain, qui m'a dit, tu sais quoi, je veux dire, l'écriture du rock, c'est le seul livre qui, depuis plusieurs années, est dans mes toilettes. Voilà, et donc, moi, je prends ça comme un grand compliment, parce que on a toujours, il y a toujours des histoires à prendre dedans, il y a des trucs, abracadabrants, mais qui sont vrais, on apprend plein de choses, et moi, je continue, en fait, c'est pour ça que c'est un truc sans fin, c'est que j'ai jamais envie de le terminer. C'est pour ça que l'éditeur me fouette depuis pas mal de temps, parce qu'il vraiment, il faut m'arracher le truc, et à chaque fois je me dis je peux en rajouter une couche, je vais chercher d'autres choses, etc., d'autres détails, tout ça pour rendre ces choses vivantes. Voilà. Voilà pour la réaction sur Houellebecq, c'est ça.
Je voulais juste demander,
oui,
dans le nouveau dictionnaire,
oui,
vous reprendriez l'intégralité de ce qui existe déjà?
Non, c'est une refonte, c'est-à-dire que tous les articles existants sont repris. C'est pas parce que déjà certains, je me suis aperçu en les relisant que ça pouvait être mieux. Donc je les ai repris et puis alors pour des questions de place, on sera obligé de virer certaines entrées pour faire de la place à d'autres. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas Eminem, il n'y a pas White Stripes, il n'y a pas les Strokes, tout ça. Bon, il faut quand même les mettre, c'est des groupes importants. Vous savez, quand on a le nez collé sur la vitre, j'ai peut-être surestimé l'importance de certains groupes du milieu des années 90 parce que tout le monde délirait dessus et sans le recul, parfois, vous ne savez pas ce qui va rester, ce qui va disparaître. Donc, voilà, mais ça va être un arbitrage progressif. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais faire, moi, je préfère accueillir un maximum de choses et faire comme au cinéma, couper au montage à la fin. Donc ça sera cruel pour certains, dont moi, qui auront passé du temps sur certains articles, mais je pense que c'est la meilleure façon, parce qu'il faut une espèce d'homogénéité, faut pas qu'il y ait trop de reggae par rapport, etc. quoi. Voilà. Déjà contractuellement, les mêmes collaborateurs sont tenus à actualiser leurs entrées. Et puis, il y a d'autres. C'est-à-dire que mon idée, c'est que pour parler des groupes qui ont 20 ou 25 ans d'âge moyen, il faut des gens de cet âge-là. Sinon, ça fait tout de suite condescendant. Moi, je m'y connais, je vais t'expliquer ton truc, c'est une référence à machin. Et ça, je trouve que c'est une attitude qui aurait été malsaine dans le cas du Seigneur du Rock, qui a été fait par des gens enthousiastes, qui étaient, je dirais, synchrones avec les groupes et les chanteurs, et qui racontent un peu leur propre histoire à travers celle des groupes. C'est ça qui est intéressant dans la musique, d'ailleurs, c'est que il s'agit pas simplement, comme dans le Seigneur du Jazz, qui est très bien fait, de dire, machin va au conservatoire, il apprend la clarinette, le cornet à piston, il travaille avec trucs, il s'établit à Seattle, il fait ci, il fait ça. Bon, là, bien sûr, il faut cet aspect-là, mais il faut aussi que le type qui fait l'article raconte pourquoi cette musique l'a fait vibrer et ce qu'elle a représenté pour lui. Et ce sont des choses qui se perdent. C'est-à-dire que ce sont des choses qui se perdent peut-être pas dans la mémoire de ceux qui parlent, mais dans l'écrit, ça se perd. Parce que les magazines, etc., tout ça, les gens ne les gardent pas. Et puis c'est une matière par définition éphémère, alors que justement le dictionnaire, il est fait pour redonner toute sa fraîcheur à la musique au moment où elle a été vécue, écoutée, où elle a été absorbée. Je me rends compte en vous disant ça que c'est peut-être ça qui rend le dictionnaire unique, hein, par rapport à une encyclopédie plus type annuaire du téléphone, quoi. Enfin, pas du téléphone, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Aux États-Unis, j'ai l'impression qu'à l'université, on étudie un peu le rock.
Oui. Je saurais pas vous dire. Je pense que j'ai rencontré des universitaires qui ont fait des thèses en sociologie, en esthétique, sur le rock, en musicologie sans doute aussi, mais j'en ai moins rencontré étrangement. Il est tout à fait possible que. Mais il y a un truc qui me frappe. C'est que aux États-Unis, je sais pas si c'est général, mais il y a beaucoup d'écoles où on apprend la pratique de la musique en même temps qu'on apprend son histoire. C'est-à-dire que il existe, je pense, des séminaires sur l'histoire de la musique country, etc. Et puis, parallèlement, les étudiants ont une pratique musicale. C'est-à-dire, ils chantent, ils jouent toutes sortes d'instruments, ils sont encouragés, dans le cadre de leurs études, à faire des groupes, etc. Ils en font à côté. Enfin, il me semble qu'il y a une espèce de circulation très naturelle en entre ce qu'ils peuvent apprendre et ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. Mais je voudrais pas me prononcer là-dessus parce que c'est pas du tout pour dire là-bas c'est mieux. À certains égards, le système français est nettement meilleur pour beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression que pour la musique, il y a quelque chose qui en France reste un peu livresque. Mais je trouve que les choses sont en train de changer beaucoup. Je sais pas, on me demande parfois si je suis optimiste ou pessimiste sur l'avenir du rock en France, la pratique. Et je pense que il se passe aujourd'hui un truc génial qui se passait pas à mon époque, c'est quand vous sortez dans la rue, vous voyez un jeune homme ou une jeune fille sur deux ou sur trois avec un instrument de musique dans le métro ou dans la rue. Et ça, je suis persuadé que de ça va sortir quelque chose d'extraordinaire. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et parce que ma génération était celle, je dirais, qui justement voyait ça tellement loin, c'était tellement fascinant, tellement inaccessible, qu'on ne pouvait qu'écrire dessus pour essayer un peu de faire retomber toute cette magie sur nous. On avait l'impression que c'était un monde très 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 intimidant parce que il y avait tout un jargon, toute une connaissance, toutes des références, etc. Une civilisation qui n'était pas tout à fait la nôtre quand même. Hein. Tout ça c'était en anglais et tout. Et je trouve que maintenant on s'est quand même beaucoup approprié tout ça. Et ça c'est très précieux, je trouve.
Et pour certains artistes, enfin, si vous aviez à retenir, je sais pas, une rencontre, quelque chose qui vous a marqué.
J'en ai parlé plusieurs fois. Il y a un musicien qui m'a fortement impressionné, c'est Brian Wilson, qui est le compositeur bien connu des Beach Boys, enfin bien connu, pas de tous, parce que il se trouve que j'ai eu le privilège de l'interviewer il y a maintenant en 92, donc il y a près de 20 ans maintenant, à une époque où il était très inaccessible. Je sais pas quel miracle de diplomatie, stratégie, d'intelligence, Christian Feuvray, qui dirigeait les Inrecuptibles à l'époque, avait déployé, mais j'étais arrivé à le voir, il était dans sa maison à Malibu, c'était très très impressionnant pour moi, parce que il est connu que ce type, que je considère comme un des plus grands compositeurs, orchestrateurs dans l'histoire de la musique populaire américaine récente, hein, et au-delà du rock au sens étroit, était quelqu'un de tout à fait déséquilibré. Il avait été interné psychiatriquement. On pensait que plus jamais il pourrait faire de la musique. Et qu'il était absolument... c'était une folie de même de chercher à lui parler, parce que c'était quelqu'un qui était complètement muré. Et l'expérience que j'ai eue, c'est que j'ai eu face à moi quelqu'un qui était complètement, dont le comportement était inquiétant parce qu'il était malade. Donc il avait subi des atteintes irrémédiables à son système nerveux, quoi, dans la gestuelle, enfin bonjour, la voix, enfin je vous raconte pas, mais c'était terrible. C'était comme aller à un hôpital, interviewer un type vraiment entre la vie et la mort parfois. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Parfois, j'attendais les réponses pendant... Il y avait une minute de blanc. Bon, j'ai serré les dents. J'avais mon petit truc à cassette. Et quand je suis sorti de l'interview, je me suis dit, bon, c'est un désastre, parce que en fait, il raconte des trucs sans queue ni tête. Il commence une histoire, il la finit pas. Il est complètement incohérent. Pourquoi je suis allé torturer ce pauvre homme? Quelle idée à la noix, etc. Bon. Et puis, j'ai laissé passer un peu de temps et j'ai réécouté la cassette. Et c'était une illumination, parce qu'en fait, il avait une cohérence qui était pas rationnelle, pas cartésienne, si vous voulez, mais qui était poétique. C'est-à-dire qu'il y avait un côté marabout bout de ficelle qui, en fait, était parfaitement clair. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme un poème. Si vous tentez de l'analyser d'une façon, logique et rationnelle, il vous paraîtra parfois, insoluble. Certains poèmes de Rimbaud, franchement, bon, essayez de les résumer ou de dire où est le début, où est le milieu, où est la fin. À part que, bon, il commence là, il termine là. Voilà, il n'y a pas de sens. En même temps, il vous laisse une impression qui est poétiquement cohérente. Brian Wilson, c'était ça. Et là, je me suis rendu compte que les musiciens avaient une perception qui était, je dirais, qui échappait au commun des mortels. Je sais qu'à un moment, il y a eu un blanc entre nous. Il y a eu le soleil commençait à baisser. On était là dans cette pièce au mur blanc. Il y avait presque rien, ce côté californien un peu ascétique comme ça. Et puis, il avait fini de dire ce qu'il avait à dire. Et moi, j'étais troublé. J'arrivais pas à trouver l'autre question. Et à un moment, il s'est tourné. Il a dit, vous savez, si Paul McCartney était à côté dans la pièce, il nous tuerait, vous et moi. Je dis bon, pourquoi? Et en même temps, j'ai compris, parce que c'était une sorte de formule énigmatique qui signifiait que ce type avait été obsédé toute sa vie par la compétition avec McCartney, qu'il estimait supérieur à lui, et que, justement, ce qui avait été le ressort de sa création, c'était cette compétition désespérée avec un type, à côté duquel il se sentait un nain. Et bon, sans faire de la psychanalyse à trois sous, Brian Wilson avait été écrasé par son père, qui lui avait expliqué qu'il était un bon à rien, un nul, qu'il n'y arriverait jamais, que le vrai artiste de la famille c'était lui, le père, etc. Et donc, c'est un type dont la force de création venait de cette espèce de sursaut de désespoir, de sursaut d'énergie du désespoir, de se dire ben je vais leur montrer que je suis pas un nul et je vais bosser dur et je vais arriver à faire des trucs qui tiennent la route. Bon, ça paraît très terre à terre et pragmatique ce que je dis, mais il y avait quelque chose qu'il exprimait d'une façon poétique, mais qui était en même temps très viscéral. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé chez les musiciens les plus dignes d'admiration que j'ai pu rencontrer. Voilà.
Sur le thème peut-être de rock et littérature, il me semble qu'il y a assez peu de rock français.
Dans le livre ?
Non, en général.
Mais comment ça, il y en a peu ? En quantité, il y en a beaucoup. C'est une vaste question. C'est genre l'art, là, c'est toujours l'art et la manière de se faire des ennemis quand on répond là-dessus. C'est difficile. Je crois qu'il y a eu plusieurs vagues. Bon, alors je vais pas vous refaire l'histoire, c'est très ennuyeux. Bon, mais enfin, en gros, d'accord. très étrange. Il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu des chanteurs qui ont été au fond importants. Pour les gens qui écoutaient du rock, je pense même à Léo Ferré. Pour moi, c'était indissoluble. Même ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, mais c'est plus important que Francis Cabrel quand même par rapport au rock. Bon, mais maintenant, je pense que pour ce qui est d'exporter la musique française et le rock français à l'étranger, il y a très peu d'exemples. Moi, je me rappelle, j'essaie de me souvenir des choses dont j'ai été le contemporain. Il y a eu la période Les Négresses Vertes, bon, qui a été un peu world, avec ce côté un peu musique du Moyen-Orient aussi, un peu tout ça. Ça s'est beaucoup exporté. Mais franchement, quand on fait au bout du compte, ce qui a marché à l'étranger, c'est la French Touch. C'est Air, c'est Daft Punk, c'est l'électro. Enfin, en électro, je pense que les Français sont parmi les meilleurs. Enfin, c'est tout le monde le sait. En rock, c'est plus compliqué. Il y a quelque chose qui est plus difficile, mais en même temps, bon, prenez un groupe comme Phoenix. Bon, c'est un groupe de rock pour moi. Enfin, c'est un groupe qui s'est exporté. Alors, est-ce qu'il est important? Je sais pas. Mais il y a, vous savez ce que disait John Lennon, c'est un truc, bon, c'est une facilité, il disait le rock français c'est un peu comme le vin anglais. Donc voilà, c'est méchant, mais il y a un peu ce complexe à surmonter toujours, quoi. Et les complexes, ça donne pas toujours de très bonnes choses.
Une question de langue française.
Je pense que par exemple le français c'est beaucoup mieux prêté au hip-hop et au rap, parce que c'est le côté verbeux, comme les Français aiment beaucoup quand même quand c'est verbeux. Là, je sais pas, j'étais à une émission à France Culture, on m'a fait parler de l'homme à tête de chou que Bachung a repris. Bon, c'est Gainsbourg, c'est quand même c'est beaucoup de textes, c'est la diction, c'est théâtral, et on s'intéresse beaucoup à l'image au style de l'artiste, c'est-à-dire que c'est pas un hasard si les Français adorent Bowie, parce que Bowie c'est du théâtre. Bon, donc je pense que les Français sont très sensibles à l'aspect théâtral du rock. à tout point de vue, costume, voix, atmosphère, histoire qu'on se raconte par rapport à ce qu'on voit sur scène, et que les anglo-saxons, enfin bon, c'est les généralisations, ça vaut ce que ça vaut, ont un rapport peut-être parfois plus terre-à-terre, parfois très terre-à-terre, c'est-à-dire combien il a vendu, ta-ta-ta, etc. Genre, voilà. Et les Français, non, ils ont une, quand même une approche beaucoup plus esthétique, et d'ailleurs, j'en suis l'incarnation, puisque Le Dictionnaire du Rock est un livre qui met en scène le rock. Hein, c'est un livre littéraire et je pense qu'en effet c'est un livre qui aurait certainement pas pu être fait par des Anglais ou des Américains ou des Australiens parce que ils ont pas ce besoin de vraiment de passer par l'explication, l'analyse esthétique, la critique exercée avec beaucoup de minutie, ce côté pointilleux. Au fond, on trouve ça dans la cinéphilie. Les textes les plus définitifs qui ont été écrits sur Hitchcock l'ont été par des Français. Enfin, on pense à le livre d'entretien de Truffaut, etc. Enfin, donc il y a cette minutie par rapport à l'art né aux États-Unis, né voilà dans les pays anglophones, qui nous caractérise. C'est peut-être notre spécificité. Je sais pas. Bon.
Question. Remarque.
Et les collaborateurs, vous les avez choisis comment en fait ?
Alors les collaborateurs du dictionnaire, certains, je suis allé les chercher, mais je dirais que ceux qui ont le plus fait. Bon, j'ai un ami à moi qui s'appelle Philippe Auclair, qui fait de la musique sous le nom de Louis Philippe, en Angleterre, qui lui a été vraiment mon capitaine, mon lieutenant, et qui a beaucoup écrit. Et puis vraiment, sans lui, je crois que le livre n'existerait pas. Il y a aussi, mais il y a inversement, il y a des gens qui ont appris que le livre se préparait et qu'ils se sont portés volontaires. Et ça, ça a été très précieux. Vincent Laufer, par exemple, était un très jeune homme, et puis je lui ai fait confiance parce que je sentais qu'il avait un enthousiasme très grand. Ça a été à moitié des candidatures spontanées, moitié des recrues que j'ai moi-même initiées. Voilà. Mais c'est moi, merci beaucoup. Merci. Oui, voilà, si je suis en forme et voilà, si j'y arrive. Ouais. Merci beaucoup.